Ardigan.
Ardigan présente La fille du marchand de saphir de Dina Jeffries. Traduit de l'anglais par Fanny Adams. Lu par Manon Jomain. Chapitre 1er. Ceylan, 1935. Une plantation de cannelle. Sa faible corpulence rend son âge difficile à définir. Quoi qu'il en soit, assis sous les branches tombantes du banyan, il semble solitaire dans la lumière du soleil qui filtre au travers des feuilles vernissées et danse sur ses membres allongés. Ce petit garçon, qui tient plus du farfadet que de l'humain, est le genre d'enfant qu'une mère désire ardemment serrer dans ses bras. Il choisit un caillou et, fronçant les sourcils, se concentre, puis le jette afin de vérifier sa force. Satisfait de son lancer, qui est meilleur que le précédent, il se dresse sur ses jambes et déambule autour de la petite clairière entourée de rhododendrons, faisant traîner ses sandales dans les brindilles et les feuilles qui bruissent et se brisent sous ses pas. Il écoute les chouettes qui secouent bruyamment leurs ailes et s'agitent dans l'arbre, suit des yeux un écureuil rayé qui s'élance à toute allure à l'assaut d'un tronc, puis hume l'air chargé de citronnelle, d'odeur de brûlis, d'arôme de cannelle et le parfum piquant de l'iode océanique dont il sent presque le goût sur sa langue. Il cueille une fleur blanche d'abricotier et enfouit son nez dans la douce fragrance fruitée. Cette fleur sera pour sa mère. Il observe une libellule rouge qui volette d'une feuille à l'autre et regrette de ne pas avoir apporté son livre sur les insectes. C'est la première fois qu'il en croise une ailleurs que dans son manuel, où elle figure en compagnie d'autres libellules, de zygoptères et de papillons. Il sait qu'il en existe des milliers à Ceylan. Cette île que sa mère appelle une merveille. Un vent frais caresse ses bras, lui donnant la chair de poule. C'est le meilleur endroit au monde, cette forêt somptueuse qui brille de tous ses feux sous le soleil. Il est impatient de se promener avec sa mère dans la soirée à la fraîche. Or, elle supporte difficilement la chaleur du jour, mais il connaît tous les coins ombragés et les lieux frais où se réfugier ne manquent pas. C'est alors qu'un changement se produit en lui et un voile de tristesse assombrit soudain ses traits. Malgré son contentement à jouer tout seul, au fond de lui, il aspire à davantage. Et le voici qui frissonne sous l'effet d'un sentiment de culpabilité qui le met mal à l'aise. Cela ne dure qu'un court instant. Lorsqu'il se promène avec sa mère, le parfum de celle-ci l'enveloppe, et il prend plaisir à nommer les oiseaux par leur nom pour qu'elles s'esclaffent en faisant semblant de s'étonner qu'il en connaisse un si grand nombre. Sa mère ne rit pas assez, même si cela n'a rien de surprenant, songe-t-il, au vu de leur situation. C'est une formule qu'il entend à longueur de temps. Au vu de notre situation, ce n'est probablement pas une bonne idée. Ou encore, au vu de notre situation, il est sans doute préférable de nous abstenir. Le voilà presque arrivé au sommet de la colline, là où s'étend son panorama préféré. Ici, il a vu à mille lieues à la ronde, et lorsqu'il ferme les yeux à demi, il lui semble presque sentir la présence de l'océan. Il imagine les vagues rafraîchissantes se briser sur sa peau brûlante. Il se voit, courant sur la plage aussi vite que possible tandis que le vent soulève ses cheveux trop longs. Il se représente les pêcheurs aux premières heures du soir, avant que le ciel ne vire au rose et que la mer ne revête des tons lilas. Un bruit en provenance des branchages le fait sursauter. Il s'arrête pour tendre l'oreille. « Il s'agit probablement d'un macacatoc, se dit-il, ou d'un langur à longue queue. On ne doit pas essayer de faire ami-ami avec les macaques, ni de les nourrir, affirme sa mère. Si on leur donne à manger, ils vous considèrent comme un subordonné. Ce qui signifie que vous leur apparaissez comme un inférieur, une créature d'un ordre subalterne. Devenir leur subalterne serait une catastrophe. Personne ne veut déchoir de son rang, n'est-ce pas ? Chapitre 2. Ceylan, le 23 décembre 1935. Ville fortifiée trois fois centenaire de Galles. La chaleur avait été accablante, atteignant les 30 degrés durant la journée et approchant encore les 24 degrés à 19 heures. La robe fourreau argentée en satin et soie de Louisa Rive avait été confectionnée à Colombo d'après un modèle qu'elle avait repéré dans l'édition américaine de Vogue. Lorsque le magazine lui était arrivé entre les mains, il s'était passé un mois depuis sa sortie. Mais bon,